L'Esprit de Dieu était présent ce matin dans la louange. Aujourd'hui, c'est le dernier prêche de notre série sur les actes. Une série que nous avions intitulée « Actes de Dieu, actes des hommes, une mission qui grandit ». Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Une mission qui se poursuit dans une situation idéale ». Ah non, non, c'était pas ça. Une mission qui se poursuit dans une situation tout sauf idéale. Et comme première partie de ce message, j'aimerais refaire un bref survol du livre des Actes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle suffisamment bien l'anglais qui pourrait aller s'asseoir à côté de Megan et traduire pour elle le message? Megan est juste au fond là. Elle nous a rejoints pour 3 mois, en direct de l'Australie, et elle a besoin d'une traductrice. Merci beaucoup, Hélène. Alors, j'aimerais juste refaire un bref survol de ce livre des Actes. Le livre des Actes parle d'un mouvement qui a commencé après la résurrection de Christ. Le livre des Actes parle d'une vague dont l'énergie de propagation vient de Dieu. Et cette vague, c'est l'irruption du royaume de Dieu dans notre monde. Christ est celui qui a initié le mouvement de cette vague par sa mort et sa résurrection. Et puis, la propagation de cette vague, elle se poursuit à la Pentecôte avec l'Esprit Saint qui vient habiter chaque croyant, l'équiper de sa présence, pour amener la vague plus loin. Les actes des apôtres nous montrent ensuite comment les premiers chrétiens ont pris cette vague d'un Dieu qui réconcilie le monde avec lui-même. Les actes des apôtres nous montrent aussi comment les premiers chrétiens ont eu à cœur d'amener cette vague plus loin et encore plus loin et toujours plus loin. Le livre des Actes est rempli de récits où l'action de Dieu se mêle à l'action des hommes, remplie de son esprit. L'action de Dieu se mêle à l'action des hommes, dont les paroles et les actes manifestent la présence de celui qui est en eux. Au milieu de nombreux miracles et de nombreuses guérisons, au milieu de prédications remplies de la puissance de son esprit, des milliers de personnes se joignent aux premiers chrétiens. Ils forment ensemble les premières églises et la vague de salut de l'esprit grossit et se répand toujours plus loin. Mais parallèlement, cette vague de l'esprit rencontre de nombreux obstacles. Le livre des Actes parle d'interventions divines absolument incroyables face à des obstacles, face à tous ces obstacles. On voit que Dieu est là et qu'il agit. Et on voit que rien ne résiste à Dieu. Mais les obstacles, ils sont là de manière quasi permanente dans le livre des Actes. Des divisions, des persécutions, des séditions, des complots, des tentatives de meurtre, tout est là, tous ces éléments sont là à travers le livre des Actes. Le contexte dans lequel la vague de l'Esprit se répand est parsemé d'obstacles. Le contexte dans lequel la vague de ce salut de Dieu se répand dans notre monde est tout sauf idyllique. Hier comme aujourd'hui, le contexte dans lequel la vague du royaume de Dieu se répand n'est jamais idéal. C'est la réalité d'un monde où 2 royaumes s'affrontent. Le règne de Dieu a pénétré le camp ennemi, le règne de Satan. Et le royaume de ce monde, le royaume de Satan cherche de toutes ses forces à résister. Dans les actes, aucun des événements qui amènent la vague du salut plus loin n'est idéal. Même à la Pentecôte, ce jour absolument incroyable où l'Esprit vient habiter les premiers disciples, certains pensent qu'ils sont ivres et les jugent pour cela. Aujourd'hui, continuer à faire partie de cette vague de l'Esprit ne se fera jamais non plus de manière idéale, dans des situations idéales. Et pourtant, dans les actes, on voit des chrétiens remplis de foi, remplis de confiance et d'assurance que Dieu est là. Des chrétiens remplis d'espoir. Ils sont persuadés que Dieu va permettre à la vague de ce salut de pénétrer plus loin. Et devant des digues de 300 mètres de haut, ils ne doutent pas. Et ils savent qu'ils peuvent s'en remettre à celui qui est capable d'ouvrir des brèches dans n'importe quel mur de béton armé. Les premiers disciples avancent dans des situations absolument pas idéales, avec foi, avec espérance. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils réalisent à quel point Dieu est capable d'agir dans ces situations qui ne sont pas idéales. J'en ai fini avec mon survol des actes. J'en arrive maintenant à la deuxième partie de mon message. Et dans cette deuxième partie, on s'intéresse à notre passage, actes 27 et 28. C'est les deux derniers chapitres du livre des actes. Et là aussi, les événements qui sont décrits, pour ceux qui ont lu ces deux chapitres, vous le savez, c'est loin d'une situation idyllique, loin d'une situation idéale. Alors, on ne va pas lire ces deux chapitres ensemble, mais je vais vous les résumer. Alors, pour rappel, Paul s'est fait arrêter 2 ans auparavant à Jérusalem. Alors qu'il est déjà en prison, Jésus lui apparaît une nuit et lui dit qu'il témoignera de lui à Jérusalem, à Rome. Il y en a qui suivent. Le procès de Paul traîne ensuite pendant 2 ans, durant lesquels il est prisonnier d'un gouverneur corrompu. Celui-ci laisse croupir Paul en prison dans l'espoir d'obtenir de l'argent de lui. Au bout de ces 2 ans, le gouverneur change, le gouverneur de la région change, et Paul est entendu par le nouveau gouverneur. Et lors de cette audition, Paul appelle à César pour se faire juger par lui. Il doit donc se rendre de Jérusalem à Rome. Et comme nous allons le voir, les conditions de son voyage qui va suivre ne sont absolument pas idéales. Voilà. Alors tout va à peu près bien jusqu'en Crète, où Paul arrive peu avant le moment de l'année où la navigation s'arrête. En effet, dans l'Antiquité, du mois de novembre au mois de mars, la mer est considérée comme trop dangereuse et les bateaux hivernent. Alors Paul, comme on le sait par l'épître des 2 Corinthiens, a déjà vécu 3 naufrages. Il est prudent. Et il conseille à l'équipage d'hiverner sur l'île, mais personne ne désire écouter ce prisonnier. Peu après avoir longé la Crète, un vent du nord-est très violent se lève et entraîne le bateau vers le sud. Et pendant 14 jours, le bateau dérive en pleine tempête et personne ne peut rien faire. Et dans cette situation, où c'est un euphémisme de dire qu'elle n'est pas idéale, un ange de Dieu apparaît à Paul et le rassure qu'il aura la vie sauve ainsi que tous ses compagnons de voyage. Alors, Paul, lui, prisonnier depuis 2 ans, se lève devant tout le monde et les rassure. Il s'adresse à tous les passagers du bateau et les encourage à manger pour reprendre des forces. Il rend grâce à Dieu et leur dit « Mangez pour avoir suffisamment d'énergie pour survivre au naufrage qui vous attend, car pas un seul d'entre vous ne sera perdu. » Alors pour faire court, finalement, le bateau disloqué vient s'échouer juste à côté de l'île de Malte. Et grâce à une intervention divine, grâce au sang-froid de Paul, les 276 passagers du bateau arrivent sains et saufs. Mais ce n'est pas fini. Après le naufrage, comme si cela ne suffisait pas, une autre situation pas du tout idéale se présente. Paul sort du bateau et les habitants de l'île ont gentiment fait un grand feu sur la plage pour que les naufragés puissent se réchauffer autour, car il faut savoir qu'il pleut et qu'il fait froid. Alors Paul veut les aider en ramassant du bois. Et juste au moment où il va jeter son bois dans le feu, il y a une vipère qui sort des branchages qu'il a ramassés et qui s'accroche à sa main. Et pourtant, une nouvelle fois, Paul s'en sort indemne. Il secoue la vipère dans le feu. Et alors que tout le monde s'attend à le voir s'écrouler raide mort, rien ne se passe. Alors ensuite, Publius, qui est un des principaux notables de cette île de Malte, il invite Paul et ses compagnons chez lui. On peut penser que dans ses compagnons, il y a Luc notamment, celui qui écrit les actes, car il dit « nous, nous, nous » tout du long. Donc on voit qu'il fait partie de ce récit du voyage de Paul de Jérusalem à Rome. Puis là, Paul, il guérit le père de Publius, qui est malade, et ensuite on lui amène tous les malades de l'île, qu'il guérit également. À la fin de l'hiver, c'est la dernière étape du voyage de Paul, de l'île de Malte jusqu'à Puteoli, d'où il peut rejoindre Rome par la voie Appia. Alors, en attendant d'être jugé, Paul demeure à Rome 2 ans. Il est toujours gardé par un soldat dans une maison qu'il a pu louer. Et dans cette maison, il peut recevoir et enseigner. Et ce livre des Actes se termine avec des mots pleins d'espoir. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Et c'est avec ces 2 versets que le livre des Actes se termine. Au chapitre 23, 5 chapitres avant, Jésus s'était révélé à Paul. « Tu vas témoigner de moi à Rome. » Et pourtant, les circonstances, les unes après les autres, semblent rendre cela impossible. Un gouverneur corrompu qui laisse traîner son procès. Un complot pour tuer Paul avec des personnes qui se sont engagées, qui ont fait le serment de ne plus manger jusqu'à ce qu'il lui ait réglé son compte. Ça, c'est dire la détermination des gens. Un naufrage, une vipère qui s'accroche à sa main. Chaque incident semble destiné à empêcher Paul d'atteindre sa destination prévue pourtant par Dieu, promise par Dieu. Au chapitre 27, Luc s'attarde longuement sur la description du naufrage qui transporte Paul à Rome. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, la mer, elle est régulièrement utilisée comme symbole des forces du mal en opposition à Dieu. En fait, ce ne sont pas les forces de la nature qui s'opposent à Dieu dans ces chapitres. Ce ne sont pas les machinations des hommes qui se sont dressées contre Paul, mais ce sont des forces démoniaques à travers eux. Dieu a affirmé que Paul irait à Rome. Rome, qui, comme l'a dit Nicolas il y a quelques dimanches, représente le pouvoir politico-spirituel de l'époque, un pouvoir politico-spirituel extrêmement puissant dans le monde antique. Et quand Dieu décide d'amener Paul au centre de ce pouvoir politico-spirituel, c'est pour permettre à son royaume de pénétrer au cœur même de ce pouvoir. Et visiblement, il y en a un à qui ça ne plaît pas. La Bible fourmille d'exemples du diable qui cherche à contrecarrer les plans de salut de Dieu. Il a essayé par Pharaon de noyer le bébé Moïse, par Hanan d'anéantir les Juifs, par Hérode le Grand, de détruire l'enfant Jésus à Bethléem, par le Sanhédrin, d'étouffer l'Église naissante à Jérusalem. Et à travers la tempête, il essaye d'empêcher Paul d'apporter son évangile dans la capitale du monde de l'époque. Aujourd'hui, l'ennemi est là et ça continue. Nous devons le savoir pour y être attentifs, ne pas être surpris. Là où des chrétiens se lèvent avec un désir profond de vivre et de proclamer l'évangile, les situations ne seront jamais idéales. C'est une garantie. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas qu'elle le soit. Mais dans ces circonstances absolument pas idéales, nous pouvons être pleins d'espoir. Les plans de Dieu se poursuivent néanmoins. Paul échappe à tous les pièges et embûches dressés contre lui, atteint Rome. Et à la fin, on le voit en train de prêcher librement, sans entrave, le message de liberté pour lequel il est pourtant enchaîné. Malgré son emprisonnement, son message a un impact fort. Plusieurs de ses interlocuteurs saisissent que la liberté de son message est telle que les chaînes qui le retiennent prisonnier ne sont rien en comparaison. Et ça c'est le message de l'évangile pour nous aussi. Au-delà des chaînes que les circonstances ont placées sur nos vies, au-delà des chaînes de la maladie physique, de la maladie psychiatrique, au-delà des chaînes que tous nos échecs ont placées sur nos vies, au-delà des chaînes qui peuvent venir d'une famille dysfonctionnelle, au-delà des chaînes qui peuvent venir d'une situation professionnelle difficile, nous pouvons expérimenter la liberté et la joie de l'Évangile. Et nous pouvons même faire plus, nous pouvons proclamer cet Évangile. Et dans la faiblesse de qui nous sommes, dans des circonstances absolument pas idéales, la force de l'espoir présent dans le message de l'Évangile va parler bien plus fort que toutes nos chaînes. Aujourd'hui, avec l'histoire de Paul, Dieu nous rappelle qu'aucun obstacle, aucune digue, aussi haute et infranchissable soit-elle, ne peut résister à la vague de salut de Dieu. Paul, en tant que prisonnier, écrit à Timothée. Il lui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Paul prêche l'évangile du royaume de Dieu en toute liberté, sans obstacle. Bien que Paul soit enchaîné, la parole de Dieu ne l'est pas. En effet, il n'y a aucune contrainte intérieure ou extérieure qui puisse limiter la portée de l'évangile. Dans des situations qui ne sont jamais idéales, l'Évangile parle encore et encore d'un Dieu qui est présent et qui sauve. L'Évangile parle de l'espoir qui se trouve encore et encore en Dieu, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Dieu est présent, lui, l'infiniment grand, l'infiniment amour. Dieu sauve, lui, l'auteur de la justice parfaite et d'une réconciliation capable de venir nous guérir jusque dans les moindres recoins de notre être intérieur. Il n'y a aucune circonstance, aussi désespérée soit-elle, qui ne puisse être visitée par son espoir. Ni la tempête traversée par Paul, ni les tempêtes que nous traversons. Rien, absolument rien, ne peut limiter la portée de l'Évangile. Dieu se sert de Paul en tant que prisonnier. Et quand Paul, le prisonnier, ouvre la bouche, plusieurs qui l'écoutent voient qu'il témoigne de quelque chose de tellement puissant, de tellement beau, de tellement salvateur, gage de tant d'espoir et de vie qu'ils ont envie de ce dont Paul témoigne. Ils le veulent pour leur vie. Ils veulent de la présence de Dieu. Alors j'aimerais conclure. Dans nos situations moins qu'idéales, la vague de l'Esprit continue sa route. Dans l'histoire de l'Église, de nombreuses digues se sont élevées contre cette vague. Certaines étaient externes à l'Église, d'autres étaient internes. Mais cette vague, aucune digue ne peut réellement l'arrêter. La puissance du salut de Dieu pour les hommes est pleinement là, aujourd'hui comme hier. Et nous qui avons été saisis par Christ, nous qui nous nourrissons de son œuvre de salut dans nos vies, nous avons pris cette vague. Nous avons pris cette vague que rien ne peut arrêter. Nos vies ne sont certainement pas idéales. Tous les jours, nous nous frottons à des obstacles et à des combats. Nous sommes en bonne compagnie avec les héros des Actes des apôtres. Leur vie n'était pas idéale. Les obstacles et les combats de toutes sortes étaient nombreux. Pourtant, les premiers chrétiens ont décidé de prendre la vague de l'Esprit. Ils ont décidé de faire partie de ce mouvement qui amènerait cette vague plus loin dans le monde. Et à cause de ce choix, leurs combats se sont multipliés. Leur vie n'était pas idéale. Mais ces vies pas idéales ont osé la confiance, de croire que Dieu est là et qu'il agit. Ces vies pas idéales n'ont pas eu peur de témoigner de ce Dieu qui est là et qui agit. Ces vies pas idéales, dans des circonstances pas idéales, étaient pleines de confiance. Elles étaient pleines d'espoir, un espoir vrai, un espoir profondément vrai et qui est toujours d'actualité pour nous aussi. On arrive à la fin des Actes. La suite des Actes, c'est nous. Dieu nous appelle à vivre et à témoigner dans sa vie dans des situations qui ne seront jamais idéales, certes, des situations faites de combats contre un ennemi qui cherche à nous anéantir, mais des situations où nous pouvons nous placer dans la confiance d'être avec celui qui a triomphé de cet ennemi. Des situations où nous pouvons nous placer dans la confiance d'être avec celui qui permet d'espérer envers et contre tout. Soyez tous bénis.